Atlantique Premium, la carte de crédit de Banque Atlantique. Renouvelable jusqu'à 10 000 euros, sans contact, avec abonnement à un programme de fidélité, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité. 33 9 693 693 70.
Igor Strauss.
Bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver. En pleine tournée africaine, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est attendu aujourd'hui en RDC pour parler de la situation sécuritaire dans l'est du pays et détailler la nouvelle stratégie des États-Unis sur le continent. Hier, lors de la première étape de sa tournée en Afrique du Sud, Anthony Blinken a déclaré que les États-Unis étaient très inquiets des violences auxquelles ils assistaient dans l'est de la RDC, inquiets également qu'elles puissent se propager et que la situation empire. Et un peu plus tôt à Pretoria, le chef de la diplomatie américaine a accusé Moscou et Pékin de créer de l'instabilité sur le continent pour en retirer un avantage stratégique et financier, une façon de replacer les États-Unis sur l'échiquier africain et de contrebalancer l'influence russe et chinoise sur le continent, un mois à peine après la tournée africaine du ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov. Alors, quelle doit être la place des États-Unis en Afrique? Qu'attendez-vous de cette tournée africaine d'Anthony Blinken? On en parle dans 30 minutes dans le débat d'appel sur l'actualité. Mais on commence, comme tous les jours, avec vos questions aux spécialistes et aux journalistes des différentes rédactions de RFI pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité du moment. Et on commence avec Satigui. Bonjour Satigui.
Bonjour Igor, bonjour à Békin, bonjour à tous les auditeurs de la radio mondiale.
Vous êtes à Conakry et vous avez des questions sur la situation en Irak, Satigui.
Bien sûr Igor. Le leader chiite irakien Muqtada al-Sadr a réclamé la dissolution du Parlement, alors que ses partisans occupent depuis plusieurs jours le siège de l'Assemblée. Alors j'ai des questions à ce sujet. La dissolution du Parlement via les élections législatives anticipées sont-elles la solution à cette crise?
Et la deuxième question.
Qui est Muqtada al-Sadr? Une union peut-elle se créer autour de sa personne?
Eh bien, pour vous répondre, nous sommes avec Guilhem Deltay. Bonjour Guilhem.
Bonjour Igor, bonjour Satigui.
Journaliste au service international de RFI. Guilhem, des dizaines de milliers de partisans de Muqtada al-Sadr ont encore manifesté vendredi dernier pour réclamer de nouvelles élections. Est-ce que l'organisation d'un nouveau scrutin serait le moyen, selon vous, de sortir de cette crise?
Alors c'est effectivement un scénario envisagé et même étudié désormais par les rivaux de Muqtada al-Sadr qui ont dit qu'ils étaient prêts à aller à de nouvelles élections législatives. Les dernières ont eu lieu au mois d'octobre. Mais toutefois, ils exigent que quelques conditions soient respectées, comme le départ des partisans de Muqtada al-Sadr des abords du Parlement. Alors aujourd'hui, les protestataires n'occupent plus le bâtiment lui-même, mais ils sont toujours présents devant et ils en bloquent les accès et donc son fonctionnement. Donc aujourd'hui, la perspective d'élections anticipées semble se dessiner. Et une politologue irakienne me disait que ce serait pour elle probablement la moins pire des solutions. Alors la moins pire, car les milices des deux côtés sont armées, qu'on craint que cette tension actuelle dans le pays ne dégénère éventuellement en affrontement, en combat. Alors est-ce que ce serait pour autant la solution à la crise? Là, des doutes peuvent être émis. Muqtada al-Sadr sortirait incontestablement renforcé de ce bras de fer, car il aurait imposé finalement sa volonté à ses rivaux, cette volonté d'élections anticipées. Mais rien ne dit qu'il obtiendrait avec ses alliés une majorité au Parlement lors des élections suivantes. Alors si la situation ne se débloque pas dans les urnes, que se passera-t-il? Acceptera-t-il Muqtada al-Sadr sa défaite et reviendra-t-il participer à un gouvernement d'union nationale ou mobilisera-t-il encore ses partisans pour bloquer à nouveau le fonctionnement institutionnel du pays, comme il le fait actuellement? Les élections anticipées sont peut-être plus un moyen, finalement, de gagner du temps qu'une véritable sortie de crise.
Mais alors, Muqtada al-Sadr est l'homme qui impose le rythme dans cette crise politique. Mais qui est-il, finalement, Guilhem?
Alors, Muqtada al-Sadr, c'est un religieux, un chiite. Selon ses partisans, il est un descendant du prophète. Il a donc une légitimité religieuse forte. Il est aussi le fils d'un ayatollah qui a été exécuté par les Baasistes, le régime de Saddam Hussein. Il a donc une légitimité familiale aussi de lutte contre un régime dictatorial. Et puis, la famille Sadr a de longue date une activité sociale, se tourne vers les classes populaires et cherche à les aider. C'est d'ailleurs dans cette catégorie de la population les plus démunis que Muqtada Sadr trouve ses soutiens les plus fidèles. Alors, Muqtada Sadr s'est imposé sur la scène politique après l'invasion américaine de l'Irak en 2003. Il était un fervent opposant à cette présence américaine dans le pays. Il a créé d'ailleurs l'armée du Mehdi pour lutter contre les troupes américaines. Muqtada Sadr se présente comme un nationaliste, anti-américain donc, mais aussi anti-Iran. Il plaide pour un meilleur équilibre dans les relations régionales. Il fait campagne aussi sur la lutte contre la corruption et il dénonce des services publics inefficaces.
Et que cherche-t-il ? Quel est son but dans cette crise finalement ?
Le principal changement que souhaite imposer Muqtada Sadr concerne le fonctionnement du gouvernement. Depuis l'invasion américaine en 2003, les postes en Irak sont répartis en fonction des confessions religieuses. Le président est kurde, le premier ministre chiite et le président du parlement sunnite. Et les gouvernements, eux, sont des gouvernements d'union nationale qui regroupent des représentants des différentes tendances et des différentes communautés. Muqtada Sadr souhaite, lui, mettre en place un gouvernement majoritaire, c'est-à-dire un gouvernement qui ne rassemblerait pas toutes les tendances du pays, mais qui serait composé uniquement de représentants de partis réunis au sein d'une coalition majoritaire au Parlement. Un gouvernement plus politique, donc, qui lui permettrait de s'imposer alors véritablement comme l'homme fort du pays. Mais son problème, eh bien, c'est qu'il n'a pas la majorité au Parlement, même avec ses alliés kurdes et sunnites.
Et est-ce qu'il peut rassembler ?
Eh bien, il a réussi à rassembler un certain nombre de personnes, des formations kurdes et sunnites dont je parlais à l'instant. Mais les alliances de Muqtada Sadr, elles fluctuent beaucoup au gré du temps en fonction des circonstances. Cela risque de ralentir la création d'un bloc solide autour de sa personne. Par ailleurs, Muqtada Sadr est certes une personnalité populaire, mais il n'est pas aimé de tous les Irakiens. Pour certains, il reste lié à des exactions de l'armée du Mehdi visant les sunnites notamment. D'autres soulignent aussi l'hypocrisie de son discours anticorruption, car son mouvement est présent, voire contrôle de nombreux ministères. Il est donc autant responsable que les autres partis de la médiocrité des services publics en Irak. Il est donc tout à la fois populaire et détesté.
Satigui, est-ce qu'on a bien répondu à vos questions ?
Merci et bonne journée à vous.
Merci à vous, bonne journée à Conakry. Et merci à vous, Guilhem Deltel, bonne journée.
Bonne journée à vous également.
Sans transition, on va passer, on va aller du côté de Kinshasa accueillir Thierry. Bonjour Thierry.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez des questions, vous, sur les systèmes de santé africains?
Oui, exactement. Selon des chiffres publiés par l'OMS, les systèmes de santé africains sont de plus en plus fragiles. Alors, j'ai deux questions. Comment expliquer que l'espérance de vie a progressé de manière importante, alors que dans le même temps, nos systèmes de santé se sont détériorés?
Eh bien, écoutez, pour vous répondre, Thierry, nous sommes en studio avec Pierre-Yves Georges. Bonjour, Pierre-Yves.
Bonjour.
Journaliste au service Afrique de RFI. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire à Thierry sur cette première question, Pierre-Yves ?
Alors, tout à fait, c'est exact. Elle est passée de 46 ans à 56 ans, cette moyenne de l'espérance de vie. C'est un record du monde. Pourquoi ? Eh bien, si les systèmes de santé sont faibles en Afrique, hein, preuve en est, la plupart des pays africains financent moins de 50% de leur budget santé, ils ne sont pas non plus inexistants. En l'espace de 20 ans, il y a même eu des améliorations notables, notamment en ce qui concerne ce qu'on appelle la couverture sanitaire universelle. Dans le jargon de l'OMS, ça désigne la capacité des États à garantir des soins complets sur l'ensemble de leur territoire. Et c'est le nerf de la guerre. Il s'agit d'un défi pour beaucoup de pays africains. En RDC, par exemple, où vous habitez Thierry, en dehors de Kinshasa, il y a des provinces où des habitants doivent parcourir 100 km pour un centre de santé, pas un hôpital, un centre de santé, pour recevoir un simple traitement contre le paludisme, par exemple.
En clair, Pierre-Yves, les soins sont devenus plus accessibles sur le continent.
Tout à fait. Les États africains ont progressé sur ce terrain puisque l'indice de couverture sanitaire universelle, qui se calcule de 1 à 100, est passé de 24 à 46 entre 2000 et 2019. En somme, si l'on vit plus longtemps sur le continent, c'est parce que le système de santé est plus accessible que dans les années 2000. Plus de gens sont soignés. Il y a donc eu des progrès, mais il en reste beaucoup à faire. Il faut rappeler que 56 ans, c'est toujours toujours inférieure à la moyenne de l'espérance de vie dans le monde, qui elle est fixée à 64 ans. Et en RDC toujours, par exemple, moins de 5% de la population de la République démocratique du Congo a les moyens de se payer des soins, selon le docteur Dirk Chaka, clinicien à Kinshasa. Et le taux de mortalité infantile, par exemple, est de 64 pour 1000 en RDC, contre 27 dans le monde, selon la Banque mondiale. Et c'est bien parce que les systèmes de santé sur le continent sont fragiles que l'Afrique est encore loin derrière.
Thierry, vous avez une deuxième question à poser à Pierre-Yves Georges.
Oui, oui. Et que préconise l'OMS pour que les gouvernements africains renforcent leur système de santé? Un principe de sécurité sociale pour aider les plus pauvres à se soigner serait-il envisageable?
Eh bien, écoutez, Pierre-Yves Georges vous répond tout de suite.
Eh bien, pour les préconisations de l'OMS, il y a quatre piliers. Premièrement, un meilleur accès aux services essentiels, hein, notre fameuse couverture de soins universelle. Deuxièmement, une meilleure qualité de soins. Ensuite, un meilleur alignement sur le besoin des bénéficiaires, c'est-à-dire adapter les soins en fonction de la demande. Et enfin, une meilleure capacité à assurer les soins, même en temps de crise. Par exemple, le Covid-19, qui a mis à mal le système de santé africain plus que dans n'importe quel autre continent. Et en règle générale, il faut accroître les contrôles et décloisonner la santé. C'est ce que préconisent une trentaine de professionnels de la santé dans une tribune parue dans le quotidien sénégalais Le Soleil le 1er juin 2022, après la mort tragique de 11 bébés dans un incendie à l'hôpital de Tivaouane, drame survenu le 25 mai dernier et qui a mis la lumière sur les défaillances des hôpitaux du pays et du continent. Alors décloisonner, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans les pays où la couverture sanitaire universelle est garantie, le ministre de la Santé ne se charge pas uniquement de la santé, paradoxalement. Il se charge aussi d'autres questions comme les infrastructures ou encore le pouvoir d'achat. Car comment garantir les soins si la population n'a pas les moyens de se déplacer jusqu'à l'hôpital ou si elle n'a pas l'argent pour payer son traitement? Prendre en compte les déterminants sociaux. Si on retourne en RDC, le budget pour garantir la santé est quasiment impossible à prendre en charge. Souvent, c'est la solidarité familiale qui joue. Et sur la possibilité enfin d'un principe de sécurité sociale sur le continent, eh bien, j'ai posé la question à Momar Faye, inspecteur médical en France et directeur du think tank Cercle Santé pour l'Afrique, et il alerte sur la propension à vouloir reprendre ce qui marche ailleurs et le copier tel quel dans d'autres pays. En France, en l'occurrence, la sécurité sociale a été créée en 1945 et le système de santé a depuis connu de nombreuses réformes. Ça s'est construit progressivement. Donc théoriquement, le principe de sécurité sociale, c'est une solution envisageable, à même de prendre en compte les facteurs socio-économiques, mais concrètement, ça ne se fait pas en un claquement de doigts.
Thierry, est-ce qu'on a bien répondu à vos questions ?
Oui, oui, là déjà, merci beaucoup.
Merci à vous et bonne journée à Kinshasa. Et merci à vous, Pierre-Yves Georges.
Merci.
Belle journée à vous, Pierre-Yves Georges, journaliste au service Afrique de RFI. Fousseni, bonjour.
Bonjour, RFI.
Vous avez des questions, vous, sur la grâce de Laurent Gbagbo?
Oui, oui, j'ai des questions. Tout d'abord, Alassane Ouattara a accordé samedi dernier une grâce présidentielle à Laurent Gbagbo, condamné à 20 ans de prison en 2018. Ma question est de savoir comment le parti de Laurent Gbagbo a réagi à cette décision et alors, dans ce contexte de réconciliation nationale, comment expliquer que Laurent Gbagbo ne soit pas rendu aux festivités de l'indépendance?
Eh bien écoutez, pour vous répondre, Fousseni, nous sommes avec Sylvain Nguessan. Bonjour Sylvain Nguessan.
Bonjour monsieur.
Analyste politique, directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Comment est-ce que le parti de Laurent Gbagbo a réagi à la décision de grâce?
Écoutez, il y a une réunion qui était prévue hier matin à 10h. Ce matin également, une autre réunion est prévue. Donc certainement que la réaction officielle du parti du président Laurent Gbagbo se fera entendre en cours du journée. Toujours est-il que certains de ses proches, parlant à leur nom, ont déjà donné leur avis dans la presse du jour, disant que le butin était quand même assez maigre, ils attendaient mieux que cela. Ceci dit, si je dois revenir sur la question de l'absence du président Laurent Gbagbo à Yamoussoukro.
Pour les festivités?
Oui, pour les festivités. On pourrait peut-être faire clin d'œil à la réponse du représentant du président Bédier, qui a avancé l'argument du poids de l'âge. La fatigue du président Bédié, certainement le président Laurent Gbagbo qu'on voit aujourd'hui n'est pas celui qu'on a connu en 2010. Toujours est-il qu'on pourrait avancer d'autres hypothèses, à savoir que les deux leaders de l'opposition, les deux principaux leaders de l'opposition, à savoir le président Laurent Gbagbo et le président Ariel Conan Bédié, aient décidé d'impulser un certain rythme à leur rencontre avec le président Alassane Ouattara, de sorte peut-être à obtenir un peu plus au regard du butin du 6 août lors du discours du président de la République, qui, selon leurs états-majors, n'aurait pas été assez profond, n'aurait pas été assez productif. Voilà, donc soit le poids de l'âge, la fatigue personnelle, des questions d'agenda personnel, mais aussi on pourrait entrevoir une manière pour l'opposition de faire comprendre à M. Alassane Ouattara qu'elle attend un peu plus de leur rencontre. C'est vrai que la Côte d'Ivoire en tire certains bénéfices, mais leurs états-majors voudraient quand même voir certains éléments trouver des réponses.
Fousséni, vous avez une dernière question à poser à Sylvain Guessant.
Oui, Laurent Gbagbo n'a pas été amnistié. S'il voulait se présenter aux élections présidentielles de 2021, en aurait-il encore la possibilité juridique?
Ah bah ça, c'est une excellente question, Sylvain Guessant.
Une question que je ne pourrais malheureusement pas trancher. Sur la loi d'amnistie, comme vous l'entendez, en Côte d'Ivoire, est du domaine de la loi. Donc, selon l'article 74 de notre Constitution, le président de la République a l'initiative de loi concurremment avec les élus du Parlement. À partir du moment où le président n'a pas pris une telle initiative, le Parlement peut s'y mettre. Pas heureusement, le président Laurent Gbagbo a un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale qui lui est plus ou moins proche. Donc ce groupe parlementaire pourrait susciter une telle initiative pour procéder de loi d'amnistie pour M. Laurent Gbagbo. Malheureusement encore, ce groupe parlementaire n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc à moins qu'il y ait des tractations entre ce groupe parlementaire et celui qui est majoritaire, celui du RHDP proche du président Alassane Ouattara, ce projet de loi pourrait ne pas passer. Donc aujourd'hui, ça dit que la candidature du président Laurent Gbagbo n'est plus forcément entre ses mains. Elle dépend aussi de l'accord ou alors du bon vouloir du groupe parlementaire vis-à-vis du projet de loi que pourrait initier le groupe parlementaire qui lui est proche.
Merci Sylvain Guessant, merci beaucoup d'avoir répondu à la question de Fousséni. Vous êtes analyste politique, directeur à l'Institut de stratégie d'Abidjan et évidemment on remercie Fousséni et on lui souhaite une bonne journée à Bamako. On va du côté de Kinshasa à nouveau. Emery, bonjour.
Bonjour chers messieurs, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous avez une question sur la situation dans l'est de la RDC.
Oui, exactement, cher monsieur, puisqu'il y a un rapport de l'ONU qui confirme que l'armée rwandaise est intervenue sur les territoires congolaises de manière directe, mais aussi indirecte à travers les M23. Alors, cher monsieur, quel impact ce rapport peut-il avoir sur le processus de médiation entamé à Luanda récemment?
Eh bien, pour vous répondre, nous sommes avec Onesfor Sematumba, analyste à International Crisis Group, en charge de la République démocratique du Congo et des Grands Lacs. Bonjour Onesfor Sematumba.
Bonjour RFI, bonjour chers auditeurs.
Que peut-on dire à la première question d'Emery?
Bon, écoute Emery, je voulais juste dire que le contenu ou le résultat de ce rapport ne risque pas d'impacter le processus de médiation entamé à Luanda, pour d'abord parce que ce rapport, en fait, c'est un instrument, je dirais, du Conseil de sécurité des Nations Unies qui donne des informations. Alors que le processus de Luanda a été initié à l'impulsion de l'Union africaine, donc le président Macky Sall, qui a demandé au président angolais de prendre cette initiative, en fait, pour trouver une issue diplomatique et politique aux tensions entre le Rwanda et la RDC. Et ce processus vient d'être soutenu ou de recevoir l'appui, encore une fois, de Kinshasa à travers les ténors de l'Union sacrée qui vient de sortir un communiqué qui,
brièvement, brièvement.
Oui, tout en se satisfaisant de résultats de ce rapport, néanmoins, appuie, soutient le processus de Luanda. Et le secrétaire d'État américain vient aussi, Blinken, donc il vient de...
Il vient en RDC pour évoquer la situation sécuritaire justement dans l'Est du pays. On va avoir l'occasion d'en parler dans le débat. Merci en tout cas, Onesforce et Matumba, d'avoir répondu à la question d'Emery. Il y en avait une deuxième, mais malheureusement, en manque de temps. Donc merci à vous, très belle journée et rendez-vous tout de suite pour le débat.